Alain, propos sur le bonheur. Chapitre 82. La politesse. La politesse s'apprend, comme la danse. Celui qui ne sait pas danser croit que le difficile est de connaître les règles de la danse et d'y conformer ses mouvements. Mais ce n'est que l'extérieur de la chose. Il faut arriver à danser sans raideur, sans trouble et par conséquent sans peur. De même, c'est peu de chose de connaître les règles de la politesse. Et même si on s'y conforme, on ne se trouve encore qu'au seuil de la politesse. Il faut que les mouvements soient précis, souples, sans raideur ni tremblement. Car le moindre tremblement se communique. Et qu'est-ce qu'une politesse qui inquiète? J'ai remarqué souvent un son de voix qui est par lui-même impoli. Un maître de chant dirait que la gorge est serrée et que les épaules ne sont pas assez assouplies. La démarche même des épaules rend impoli un acte poli. Trop de passion, assurance cherchée, force rassemblée. Les maîtres d'armes disent toujours trop de force. Et l'escrime est une sorte de politesse qui conduit aisément à toute la politesse. Tout ce qui sent le brutal et l'emporté est impoli. Les signes suffisent, la menace suffit. On pourrait dire que l'impolitesse est toujours une sorte de menace. La grâce féminine se replie alors et cherche protection. Un homme qui tremble par sa force mal disciplinée, que dira-t-il s'il s'anime et s'emporte? C'est pourquoi il ne faut point parler fort. Qui voyageant reste dans un salon, voyait un homme peu soucieux de l'opinion et des usages, et souvent mal cravaté. Mais la voix était toute une politesse, par une douceur chantante où l'oreille ne découvrait aucune force. Chose miraculeuse, car chacun avait souvenir de cette dialectique métallique et de ce rugissement voix du peuple lion. La force n'est pas contraire à la politesse, elle l'orne, c'est puissance sur puissance. Un homme impoli est encore impoli quand il est seul. Trop de force dans le moindre mouvement. On sent la passion nouée et cette peur de soi qui est timidité. Je me souviens d'avoir entendu un homme timide qui discutait publiquement de grammaire. Son accent était celui de la haine la plus vive. Et comme les passions se gagnent bien plus vite que les maladies, je ne m'étonne jamais de trouver de la fureur dans les opinions les plus innocentes. Ce n'est souvent qu'une sorte de terreur qui s'accroît par le son même de la voix et par de vains efforts contre soi-même. Et il se peut que le fanatisme soit d'abord impolitesse, car ce que l'on exprime, même sans le vouloir, il faut bien qu'à la fin on le ressente. Ainsi, le fanatisme serait un fruit de timidité, une peur de ne pas bien soutenir ce que l'on croit. Enfin, comme la peur n'est guère supportée, une fureur contre soi et contre tous qui communique une force redoutable aux opinions les plus incertaines. Observez les timides et comment ils prennent parti. Vous connaîtrez que la convulsion est une étrange méthode de penser. Par ce détour, on comprend comment une tasse de thé tenue à la main civilise un homme. Le maître d'armes jugeait d'un tireur à la manière de faire tourner une cuillère dans une tasse de café, sans faire un mouvement de trop. 6 janvier 1922. Chapitre 83. Savoir-vivre. Il y a une politesse de courtisan, qui n'est pas belle. Mais aussi, ce n'est point de la politesse. Et il me semble que tout ce qui est voulu est hors de la politesse. Par exemple, un homme réellement poli pourra traiter durement et jusqu'à la violence un homme méprisable ou méchant. Ce n'est point de la politesse. La bienveillance délibérée n'est pas non plus de la politesse. La flatterie calculée n'est pas de la politesse. La politesse se rapporte seulement aux actions que l'on fait sans y penser et qui expriment quelque chose que nous n'avons pas l'intention d'exprimer. Un homme de premier mouvement, qui dit tout ce qui lui vient, qui s'abandonne au premier sentiment, qui marque sans retenue de l'étonnement, du dégoût, du plaisir, avant même de savoir ce qu'il éprouve, est un homme impoli. Il aura toujours à s'excuser, parce qu'il aura troublé et inquiété les autres, sans intention, contre son intention. Il est pénible de blesser quelqu'un sans l'avoir voulu, par un récit à l'étourdi. L'homme poli est celui qui sent la gêne avant que le mal soit sans remède et qui change de route élégamment. Mais il y a plus de politesse encore à deviner d'avance ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, et dans le doute, à laisser au maître de la maison la direction des propos. Tout cela pour éviter de nuire sans l'avoir voulu. Car s'il juge nécessaire de piquer un dangereux personnage au bon endroit, libre à lui. Son acte relève alors de la morale à proprement parler, et non plus de la politesse. Impolitesse est toujours maladresse. Il est méchant de faire sentir à quelqu'un l'âge qu'il a. Mais si on le fait sans le vouloir, par geste ou physionomie, ou parole trop peu méditée, on est impoli. Marcher sur le pied de quelqu'un est violence, si on le fait volontairement. Si c'est involontairement, c'est impolitesse. Les impolitesses sont des ricochets imprévus. Un homme poli les évite et ne touche qu'où il veut toucher. Il n'en touche que mieux. Poli ne veut pas dire flatteur nécessairement. La politesse est donc une habitude et une aisance. L'impoli, c'est celui qui fait autre chose que ce qu'il veut faire, comme s'il accroche des vaisselles ou des bibelots. C'est celui qui dit autre chose que ce qu'il veut dire, ou qui signifie par le ton brusque, par la voix forte inutilement, par l'hésitation, par le bredouillement, autre chose que ce qu'il veut signifier. La politesse peut donc s'apprendre comme l'escrime. Un fat est un homme qui signifie, sans savoir quoi, par extravagance voulue. Un timide est un homme qui voudrait bien ne pas être fat, mais qui ne sait comment faire parce qu'il aperçoit l'importance des actes et des paroles. Aussi, le voyez-vous se resserrer et se contracter afin de s'empêcher d'agir et de parler. Effort prodigieux sur lui-même, qui le rend tremblant, suant et rouge, et encore plus maladroit qu'il ne serait au naturel. La grâce, au contraire, est un bonheur d'expression et de mouvement qui n'inquiète et ne blesse personne. Et les qualités de ce genre importent beaucoup pour le bonheur. Un art de vivre ne doit point les négliger. 21 mars 1911. Chapitre 84. Faire plaisir. Je parlais d'un art de vivre qu'il faudrait enseigner. J'y mettrai cette règle. Faire plaisir. Elle me fut proposée par un homme que j'ai connu assez vif de ton et qui a réformé son caractère. Une telle règle étonne au premier moment. Faire plaisir, n'est-ce pas être menteur, flatteur, courtisan? Entendons bien la règle. Il s'agit de faire plaisir toutes les fois que cela est possible, sans mensonge ni bassesse. Or, presque toujours cela nous est possible. Quand nous disons quelque vérité désagréable, avec une voix aigre et le sang au visage, ce n'est qu'un mouvement d'humeur, ce n'est qu'une courte maladie que nous ne savons pas soigner. En vain, nous voulons ensuite y avoir mis du courage. Cela est douteux si nous n'avons risqué beaucoup, et d'abord si nous n'avons pas délibéré. D'où je tirerais ce principe de morale, ne sois jamais insolent que par volonté délibérée et seulement à l'égard d'un homme plus puissant que toi. Mais sans doute vaut-il mieux dire le vrai sans forcer le ton, et même dans le vrai, choisir ce qui est louable. Il y a à louer dans presque tout, car les vrais mobiles, nous les ignorons toujours, et il n'en coûte rien de supposer plutôt modération que lâcheté, plutôt amitié que prudence. Surtout avec les jeunes, mettez tout au mieux dans ce qui n'est que supposition, et faites-leur un beau portrait d'eux-mêmes. Ils se croiront ainsi, ils seront bientôt ainsi. Au lieu que la critique ne sert jamais à rien. Par exemple, si c'est un poète, retenez et citez les plus beaux vers. Si c'est un politique, louez-le pour tout le mal qu'il n'a pas fait. Il me revient ici un récit d'école maternelle. Un tout petit garnement, qui ne faisait jusque-là que mauvaise farce et gribouillage, un jour, fit proprement le tiers d'une page de bâton. La maîtresse passait dans les bancs et donnait des bons points. Comme elle ne remarquait seulement pas ce tiers de page tracé avec tant de peine, « Ah ben merde alors !» dit le petit garnement. Et il dit la chose tout crûment, car cette école n'est pas au Faubourg Saint-Germain. Sur quoi, la maîtresse revint à lui, et lui donna un bon point sans autre commentaire. Il s'agissait de bâtons et non de beau langage. Mais ce sont des cas difficiles. Il y en a d'autres où l'on peut toujours, sans hésitation, sourire et se montrer poli et prévenant. Si l'on vous bouscule un peu dans une foule, ayez comme règle d'en rire. Le rire dissout la bousculade, car chacun rougit d'une petite colère qui lui venait. Et vous, vous échappez peut-être à une grande colère, c'est-à-dire à une petite maladie. C'est ainsi que je concevrais la politesse. Ce n'est qu'une gymnastique contre les passions. Être poli, c'est dire ou signifier par tous ses gestes et par toutes ses paroles, ne nous irritons pas, ne gâtons pas ce moment de notre vie. Est-ce donc bonté évangélique? Non, je ne pousserai point jusque-là. Il arrive que la bonté est indiscrète et humilie. La vraie politesse est plutôt dans une joie contagieuse qui adoucit tous les frottements, et cette politesse n'est guère enseignée. Dans ce que l'on appelle la société polie, j'ai vu bien des dos courbés, mais je n'ai jamais vu un homme poli. 8 mars 1911. Chapitre 85. Platon médecin. Gymnastique et musique étaient les deux grands moyens de Platon médecin. Gymnastique signifie travail modéré des muscles sur eux-mêmes, en vue de les étirer et masser intérieurement selon leur forme. Les muscles souffrants ressemblent à des éponges chargées de poussière. On nettoie les muscles comme les éponges, en les gonflant de liquide et en les pressant plus d'une fois. Les physiologistes ont ainsi dit que le cœur est un muscle creux. Mais puisque les muscles enferment un riche réseau de vaisseaux sanguins, qui sont alternativement comprimés et dilatés par la contraction et le relâchement. On pourrait bien dire aussi que chaque muscle est une sorte de cœur spongieux dont les mouvements, précieuse ressource, peuvent être réglées par volonté. Aussi, voit-on que ceux qui ne sont point maîtres de leurs muscles par gymnastique, et que l'on appelle les timides, sentent en eux-mêmes des ondes sanguines déréglées qui se portent vers les parties molles, ce qui fait que tantôt leur visage rougit sans raison, tantôt leur cerveau est envahi par un sang trop pressé, ce qui leur donne de courts délires. Tantôt, leurs entrailles sont comme inondées. Malaise bien connu. Contre quoi, un exercice réglé des muscles est assurément le meilleur remède. Et c'est ici que l'on voit apparaître la musique sous la forme du maître à danser qui, par son petit crin-crin, règle au mieux la circulation viscérale. Ainsi, la danse guérit de la timidité comme chacun sait, mais soulage le cœur d'autre manière encore, en étirant les muscles modérément et sans secousse. Quelqu'un qui souffrait de la tête me disait ces jours-ci que les mouvements de mastication pendant les repas le soulageaient aussitôt. Je lui dis, il faut donc mâcher de la gomme à la manière des Américains. Mais je ne sais s'il l'a essayé. La douleur nous jette aussitôt dans des conceptions métaphysiques. Au siège de la douleur, nous imaginons un mal, être fantastique, qui s'est introduit sous notre peau et que nous voudrions chasser par sorcellerie. Il nous paraît invraisemblable qu'un mouvement réglé des muscles efface la douleur, monstre rongeant. Mais il n'y a point, en général, de monstre rongeant ni rien qui y ressemble. Ce sont de mauvaises métaphores. Essayez de rester longtemps sur un pied. Vous constaterez qu'il ne faut pas un grand changement pour produire une vive douleur, ni un grand changement pour la faire disparaître. Dans tous les cas, ou presque, c'est une certaine danse qu'il s'agit d'inventer. Chacun sait bien que c'est un bonheur d'étirer ses muscles et de bâiller librement. Mais on n'a point l'idée de l'essayer par gymnastique, afin de mettre en train ce mouvement libérateur. Et ceux qui n'arrivent pas à dormir devraient mimer l'envie de dormir et le bonheur de se détendre. Mais tout au contraire, ils miment l'impatience, l'anxiété, la colère. Ici sont les racines de l'orgueil, toujours trop puni. C'est pourquoi, empruntant le bonnet d'Hippocrate, j'essaie de décrire la vraie modestie, sœur d'hygiène et fille de gymnastique et de musique. 4 février 1922. Chapitre 86. L'art de se bien porter. L'égalité d'âme ne reçoit pas en général de récompenses extérieures, mais elle est certainement favorable à la santé. Un homme heureux se laisse oublier. La gloire le viendra chercher 40 ans après sa mort. Mais contre la maladie plus intime, l'envie est bien plus redoutable, le bonheur est la meilleure arme. Contre quoi l'homme triste trouve à dire que le bonheur est un effet et non une cause. C'est trop simplifié. La force fait qu'on aime la gymnastique, mais la gymnastique volontaire donne force. Bref, il y a certainement une attitude viscérale, s'il est permis d'ainsi dire, qui favorise le combat et l'élimination, et une autre, contraire, qui étrangle et empoisonne celui qui la prend. Sans doute, on ne peut pas étirer et masser ses propres viscères comme en étant les doigts. Mais, comme la joie est le signe évident d'une bonne attitude viscérale, on peut parier que toutes les pensées qui vont à la joie disposent aussi à la santé. Il faudrait donc se réjouir lorsque l'on est malade? Mais cela, dites-vous, est absurde et impossible. Attendez. On a assez dit que l'existence de l'homme de guerre, les projectiles mis à part, était bonne pour la santé. J'ai pu m'en rendre compte, ayant mené pendant 3 ans l'existence du lapin de Garenne qui fait 3 tours dans la rosée et rentre en son trou au moindre bruit. 3 années, sans ressentir autre chose que la fatigue et le besoin de dormir. Or, j'avais l'estomac de mon siècle et je traînais une maladie mortelle depuis mon âge de 20 ans, comme tous ceux qui pensent sans agir. On a bientôt dit que cette prospérité du corps tient à l'air campagnard et à la vie active. Mais j'aperçois d'autres causes. Un caporal d'infanterie, le même qui me disait « nous n'avons plus peur, nous n'avons plus que des transes », vint un jour à mon abri avec un visage qui exprimait le bonheur. « Cette fois, dit-il, je suis malade. J'ai la fièvre. Le major me l'a dit, je le revois demain. C'est peut-être la typhoïde, je ne tiens plus debout. Le paysage tourne. Enfin, c'est l'hôpital. Après 2 ans et demi debout, j'ai bien mérité cette chance-là. Mais je voyais bien que la joie le guérissait. Le lendemain, il n'était plus question de fièvre, mais bien de traverser les agréables ruines de Fliret et pour gagner une position encore pire. Ce n'est pas une faute d'être malade. La discipline ne peut rien dire contre, ni l'honneur. Quel est le soldat qui n'a point guetté en lui-même, dans les transports de l'espérance, les symptômes d'une maladie, même mortelle? On finit par penser, en ces jours atroces, qu'il est bien agréable de mourir de maladie. De telles pensées sont bien fortes contre toute maladie. La joie dispose le corps en son intérieur mieux que le plus habile médecin ne saurait faire. Ce n'est plus cette peur d'être malade qui aggrave tout. S'il y eut, comme on dit, des solitaires qui attendaient la mort comme une grâce de Dieu, je ne m'étonne pas qu'ils soient morts centenaires. Cette durée que nous admirons chez les vieillards, quand ils ont fini de s'intéresser à quelque chose, vient sans doute de ce qu'ils ne sentent plus la peur de mourir. Chose qu'il est toujours bon de comprendre, comme il est bon de comprendre que la raideur, qui vient de peur, fait tomber le cavalier. Il y a un genre d'insouciance qui est une grande et puissante ruse. 28 septembre 1921. Chapitre 37. Victoire. Dès qu'un homme cherche le bonheur, il est condamné à ne pas le trouver, et il n'y a point de mystère là-dedans. Le bonheur n'est pas comme cet objet en vitrine que vous pouvez choisir, payer et emporter. Si vous l'avez bien regardé, il sera bleu ou rouge chez vous comme dans la vitrine. Tandis que le bonheur n'est bonheur que quand vous le tenez. Si vous le cherchez dans le monde, hors de vous-même, jamais rien n'aura l'aspect du bonheur. En somme, on ne peut ni raisonner ni prévoir au sujet du bonheur. Il faut l'avoir maintenant. Quand il paraît être dans l'avenir, songez-y bien, c'est que vous l'avez déjà. Espérez, c'est être heureux. Les poètes expliquent souvent mal les choses, et je les comprends bien. Ils ont tant de mal à ajuster les syllabes et les rimes qu'ils sont condamnés à rester dans les lieux communs. Ils disent que le bonheur resplendit tant qu'il est au loin et dans l'avenir, et que lorsqu'on le tient, ce n'est plus rien de bon, comme si on voulait saisir l'arc-en-ciel ou tenir la source dans le creux de sa main. Mais c'est parler grossièrement. Il est impossible de poursuivre le bonheur sinon en parole. Et ce qui attriste surtout ceux qui cherchent le bonheur autour d'eux, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout à le désirer. Jouer au bridge, cela ne me dit rien parce que je n'y joue pas. La boxe et l'escrime, de même. La musique, de même, ne peut plaire qu'à celui qui a vaincu, d'abord, certaines difficultés. La lecture, de même. Il faut du courage pour entrer dans Balzac. On commence par s'y ennuyer. Le geste du lecteur paresseux est bien plaisant. Il feuillette, il lit quelques lignes, il jette le livre. Le bonheur de lire est tellement imprévisible qu'un lecteur exercé s'en étonne lui-même. La science ne plaît pas en perspective. Il faut y entrer. Et il faut une contrainte au commencement et une difficulté toujours. Un travail réglé et des victoires après des victoires. Voilà sans doute la formule du bonheur. Et quand l'action est commune, comme dans un jeu de cartes, ou dans la musique, ou dans la guerre, c'est alors que le bonheur est vif. Mais il y a des bonheurs solitaires qui portent toujours les mêmes marques. Action, travail, victoire. Ainsi le bonheur de l'avare ou du collectionneur, qui du reste se ressemble beaucoup. D'où vient que l'avarice est prise pour un vice? Surtout si l'avare en vient à s'attacher aux vieilles pièces d'or. Tandis que l'on admire plutôt celui qui met en vitrine des émaux ou des ivoires ou des peintures ou des livres rares. On se moque de l'avare qui ne veut pas changer son or pour d'autres plaisirs, alors qu'il y a des collectionneurs de livres qui n'y lisent jamais, de peur de les salir. Dans le vrai, ces bonheurs-là, comme tous les bonheurs, sont impossibles à goûter de loin. C'est le collectionneur qui aime les timbres de poste, et je n'y comprends rien. De même, c'est le boxeur qui aime la boxe, et le chasseur qui aime la chasse, et le politique qui aime la politique. C'est dans l'action libre qu'on est heureux. C'est par la règle que l'on se donne qu'on est heureux. Par la discipline acceptée en un mot, soit au jeu de football, soit à l'étude des sciences. Et ces obligations, vues de loin, ne plaisent pas, mais au contraire déplaisent. Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. 18 mars 1911. Chapitre 88. Poète. C'est une belle amitié que celle de Goethe et de Schiller, que l'on voit dans leurs lettres. Chacun donne à l'autre le seul secours qu'une nature puisse attendre d'une autre, qui est que l'autre la confirme et lui demande seulement de rester soi. C'est peu de prendre les êtres comme ils sont, et il faut toujours en venir là. Mais les vouloir comme ils sont, voilà l'amour vrai. Ces deux hommes, donc, chacun poussant au dehors sa nature exploratrice, ont vu en commun au moins ceci, que les différences sont belles et que les valeurs s'ordonnent non d'une rose à un cheval, mais d'une rose à une belle rose et d'un cheval à un beau cheval. On dit bien qu'il ne faut pas disputer des goûts, et cela est vrai si l'un préfère une rose et l'autre un cheval. Mais sur ce qu'est une belle rose ou un beau cheval, on peut disputer parce que l'on peut s'accorder. Toutefois, ces exemples sont encore abstraits, quoiqu'ils soient sur le bon chemin, parce que de tels êtres sont encore serfs de l'espèce, ou bien de nous et de nos besoins. Nul ne plaidera pour la musique contre la peinture, mais on dispute utilement sur le tableau original et la copie, retrouvant dans l'un les signes de la nature libre et se développant de son propre fond, et dans l'autre les cicatrices de l'esclave et le développement par l'idée extérieure. Nos deux poètes devaient sentir ces différences au bout de leurs plumes. L'admirable, c'est que, raisonnant entre eux et s'entretenant souvent de perfection et d'idéal, Il n'est jamais égaré un seul moment leur génie propre. Chacun d'eux donne bien un conseil à l'autre, et cela revient à dire « voilà comment j'aurais fait ». Mais en même temps, chacun sait bien dire que ce qu'il conseille à l'autre est comme nul pour l'autre. Et l'autre, en réponse, renvoie fortement le conseil au conseilleur, résolu à chercher par ses propres voies. Je suppose que le poète et tout artiste est averti par le bonheur de ce qu'il peut et ne peut pas. Car le bonheur, comme dit Aristote, est le signe des puissances. Mais cette règle, à ce que je crois, est bonne pour tous. Il n'y a de redoutable au monde que l'homme qui s'ennuie. Tous ceux qui sont dits méchants sont mécontents en cela. Non pas mécontents parce qu'ils sont méchants, mais plutôt cet ennui qui les suit partout est le signe qu'ils ne développent nullement leur perfection propre et qu'ainsi ils agissent à la façon des causes aveugles et mécaniques. Au reste, il n'y a sans doute au monde que le fou furieux qui exprime à la fois le plus profond malheur et la pure méchanceté. Toutefois, en ceux que nous appelons méchants, en chacun de nous aussi bien, je remarque quelque chose d'égaré et de mécanique en même temps que la fureur de l'esclave. Au contraire, ce qui est fait avec bonheur est bon. Les œuvres d'art témoignent bien clairement là-dessus. On dit énergiquement d'un trait qu'il est heureux. Mais toute action bonne est elle-même belle et embellit le visage de l'homme. Or, il est universel que l'on ne craigne jamais rien d'un beau visage. D'où je conjecture que les perfections ne se contrarient jamais. Et qu'il n'y a que les imperfections ou vices qui se battent, dont la peur est un frappant exemple. Et c'est pourquoi la méthode d'enchaîner, qui est celle du tyran et celle du poltron, m'a toujours paru folle essentiellement, et mère de toute folie. Déliez, délivrez, et n'ayez pas peur. Qui est libre est désarmé. 12 septembre 1923. Chapitre 89. Bonheur est vertu. Il y a un genre de bonheur qui ne tient pas plus à nous qu'un manteau. Ainsi, le bonheur d'hériter ou de gagner à la loterie. Aussi la gloire, car elle dépend de rencontres. Mais le bonheur qui dépend de nos puissances propres est au contraire incorporé. Nous en sommes encore mieux teints que n'est de pourpre la laine. Le sage des temps anciens, se sauvant du naufrage et abordant tout nu, disait « Je porte toute ma fortune avec moi ». Ainsi, Wagner portait sa musique et Michel-Ange toutes les sublimes figures qu'il pouvait tracer. Le boxeur aussi a ses poings et ses jambes et tout le fruit de ses travaux, autrement que l'on a une couronne de l'argent. Toutefois, il y a plusieurs manières d'avoir de l'argent. Et celui qui sait faire de l'argent, comme on dit, est encore riche de lui-même dans le moment qu'il a tout perdu. Les sages d'autrefois cherchaient le bonheur. Non pas le bonheur du voisin, mais leur bonheur propre. Les sages d'aujourd'hui s'accordent à enseigner que le bonheur propre n'est pas une noble chose à chercher. Les uns s'exerçant à dire que la vertu méprise le bonheur, et cela n'est pas difficile à dire, les autres enseignant que le commun bonheur est la vraie source du bonheur propre, ce qui est sans doute l'opinion la plus creuse de toutes, car il n'y a point d'occupation plus vaine que de verser du bonheur dans les gens autour, comme dans des autres versets. J'ai observé que ceux qui s'ennuient d'eux-mêmes on ne peut point les amuser. Et au contraire, à ceux qui ne mendient point, c'est à cela que l'on peut donner quelque chose. Par exemple, la musique à celui qui s'est fait musicien. Bref, il ne sert point de semer dans le sable. Et je crois avoir compris, en y pensant assez, la célèbre parabole du semeur, qui juge incapable de recevoir ceux qui manquent de tout. Qui est puissant et heureux par soi, sera donc heureux et puissant par les autres encore plus. Oui, les heureux feront un beau commerce et un bel échange. Mais encore faut-il qu'ils aient en eux du bonheur pour le donner. Et l'homme résolu doit regarder une bonne fois de ce côté-là, ce qui le détourne d'une certaine manière d'aimer qui ne sert point. M'est avis, donc, que le bonheur intime et propre n'est point contraire à la vertu, mais plutôt est par lui-même vertu. Comme ce beau mot de vertu nous en avertit, qui veut dire puissance. Car le plus heureux au sens plein est bien clairement celui qui jettera le mieux par-dessus bord l'autre bonheur, comme on jette un vêtement. Mais sa vraie richesse, il ne la jette point. Il ne le peut. Non, pas même le fantassin qui attaque ou l'aviateur qui tombe. Leur intime bonheur est aussi bien chevillé à eux-mêmes que leur propre vie. Ils combattent de leur bonheur comme d'une arme. Ce qui a fait dire qu'il y a du bonheur dans le héros tombant. Mais il faut user ici de cette forme redressante qui appartient en propre à Spinoza et dire « Ce n'est point parce qu'ils mouraient pour la patrie qu'ils étaient heureux, mais au contraire, c'est parce qu'ils étaient heureux qu'ils avaient la force de mourir. » Qu'ainsi soient tressées les couronnes de novembre. 5 novembre 1922. Chapitre 90. Que le bonheur est généreux. Il faut vouloir être heureux et y mettre du sien. Si l'on reste dans la position du spectateur impartial, laissant seulement entrer au bonheur les portes ouvertes, c'est la tristesse qui entrera. Le vrai du pessimisme est en ceci que la simple humeur non gouvernée va au triste ou à l'irrité, comme on voit par l'enfant inoccupé et n'en attend pas longtemps. L'attrait du jeu si puissant à cet âge n'est pas celui d'un fruit qui éveille la faim ou la soif, mais plutôt j'y vois une volonté d'être heureux par le jeu, comme on voit que sont les autres. Et la volonté trouve ici sa prise, parce qu'il ne s'agit que de se mouvoir, de fouetter la toupie, de courir et de crier. Les choses que l'on peut vouloir, parce que l'exécution suit aussitôt. La même résolution se voit dans les plaisirs du monde, qui sont plaisirs par décret, mais qui existent aussi que l'on s'y mette par le costume et l'attitude, ce qui soutient le décret. Ce qui plaît surtout aux citadins dans la campagne, c'est qu'il y va. L'agir porte le désirer. Je crois que nous ne savons pas bien désirer ce que nous ne pouvons faire, et que l'espérance non aidée est toujours triste. C'est pourquoi la vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Chacun a observé quelques tyrans domestiques, et l'on voudrait penser, par une vue trop simple, que l'égoïste fait de son propre bonheur la loi de ce qui l'entoure. Mais les choses ne vont point ainsi. L'égoïste est triste parce qu'il attend le bonheur, même sans aucun de ces petits mots qui ne manquent guère. L'ennui vient. C'est donc la loi d'ennui et de malheur que l'égoïste impose à ceux qui l'aiment ou à ceux qui le craignent. Au contraire, la bonne humeur a quelque chose de généreux. Elle donne plutôt qu'elle ne reçoit. Il est bien vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui. Mais on ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. C'est ce que nous apprend la politesse, qui est un bonheur d'apparence, aussitôt ressenti par la réaction du dehors sur le dedans. Loi constante et constamment oubliée, ainsi ceux qui sont polis sont aussitôt récompensés, sans savoir qu'ils sont récompensés. La meilleure flatterie des jeunes, qui ne manque jamais son effet, c'est qu'ils ne perdent point devant les personnes d'âge cet éclat du bonheur qui est la beauté. C'est comme une grâce qu'ils font, et l'on appelle grâce, entre autres sens, de ce mot si riche, le bonheur sans cause, et sortant de l'être comme d'une source. Dans la bonne grâce, il y a un peu plus d'attention, et aussi d'intention. Ce qui arrive quand la richesse du jeune âge n'y suffit plus. Mais, quel que soit le tyran, c'est toujours faire sa cour que de bien manger ou de ne point montrer d'ennui. C'est pourquoi il arrive qu'un tyran triste et qui semble n'aimer point la joie d'autrui est souvent vaincu et conquis par ceux en qui la joie est plus forte que tout. Les auteurs aussi plaisent par la joie d'écrire, et l'on dit très bien bonheur d'expression, tour heureux. Tout ornement est de joie. Nos semblables ne nous demandent jamais que ce qui nous est à nous-mêmes le plus agréable. Aussi, la politesse a-t-elle reçu le beau nom de savoir-vivre. 10 avril 1923. Chapitre 91. L'art d'être heureux. On devrait bien enseigner aux enfants l'art d'être heureux. Non pas l'art d'être heureux quand le malheur vous tombe sur la tête. Je laisse cela aux stoïciens. Mais l'art d'être heureux quand les circonstances sont passables et que toute l'amertume de la vie se réduit à de petits ennuis et à de petits malaises. La première règle serait de ne jamais parler aux autres de ses propres malheurs, présents ou passés. On devrait tenir pour une impolitesse de décrire aux autres un mal de tête, une nausée, une aigreur, une colique. Quand même ce serait en termes choisis. De même, pour les injustices et pour les mécomptes. Il faudrait expliquer aux enfants et aux jeunes gens, aux hommes aussi, quelque chose qu'ils oublient trop, il me semble. C'est que les plaintes sur soi ne peuvent qu'attrister les autres, c'est-à-dire, en fin de compte, leur déplaire, même s'ils cherchent de telles confidences, même s'il semble se plaire à consoler. Car la tristesse est comme un poison. On peut l'aimer, mais non sans trouver bien. Et c'est toujours le plus profond sentiment qui a raison à la fin. Chacun cherche à vivre et non à mourir. Et cherche ceux qui vivent. J'entends ceux qui se disent contents, qui se montrent contents. Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes si chacun mettait de son bois au feu au lieu de pleurnicher sur des cendres. Remarquez que ces règles furent celles de la société polie, et il est vrai qu'on s'y ennuyait, faute de parler librement. Notre bourgeoisie a su rendre aux propos de société tout le franc-parler qu'il lui faut, et c'est très bien. Ce n'est pourtant pas une raison pour que chacun apporte ses misères au tas. Ce ne serait qu'un ennui plus noir. Et c'est une raison pour élargir la société au-delà de la famille. Car dans le cercle de famille, souvent, par trop d'abandon, par trop de confiance, on vient à se plaindre de petites choses auxquelles on ne penserait même pas si l'on avait un peu de souci de plaire. Le plaisir d'intriguer autour des puissances vient sans doute de ce que l'on oublie alors par nécessité mille petits malheurs dont le récit serait ennuyeux. L'intrigant se donne, comme on dit, de la peine, et cette peine tourne à plaisir comme celle du musicien, comme celle du peintre. Mais l'intrigant est premièrement délivré de toutes les petites peines qu'il n'a point l'occasion ni le temps de raconter. Le principe est celui-ci. Si tu ne parles pas de tes peines, j'entends de tes petites peines, tu n'y penseras pas longtemps. Dans cet art d'être heureux auquel je pense, je mettrais aussi d'utiles conseils sur le bon usage du mauvais temps. Au moment où j'écris, la pluie tombe, les tuiles sonnent, mille petites rigoles bavardent, l'air est lavé et comme filtré, les nuées ressemblent à des haillons magnifiques. Il faut apprendre à saisir ces beautés-là. Mais l'un dit, la pluie gâte les moissons, et l'autre, la boue salit tout, et un troisième, il est si bon de s'asseoir dans l'herbe. C'est entendu, on le sait, vos plaintes n'y retranchent rien, et je reçois une pluie de plaintes qui me poursuit dans la maison. Eh bien, c'est surtout en temps de pluie que l'on veut des visages gais. Donc, bonne figure à mauvais temps. 8 septembre 1910. Chapitre 92. Du devoir d'être heureux. Il n'est pas difficile d'être malheureux ou mécontent. Il suffit de s'asseoir, comme fait un prince qui attend qu'on l'amuse. Ce regard qui guette et pèse le bonheur comme une denrée jette sur toute chose la couleur de l'ennui. Non sans majesté, car il y a une sorte de puissance à maîtriser toutes les offrandes. Mais j'y vois aussi une impatience et une colère à l'égard des ouvriers ingénieux qui font du bonheur avec peu de choses, comme les enfants font des jardins. Je fuis. L'expérience m'a fait voir assez que l'on ne peut distraire ceux qui s'ennuient d'eux-mêmes. Au contraire, le bonheur est beau à voir. C'est le plus beau spectacle. Quoi de plus beau qu'un enfant? Mais aussi, il se met tout à ses jeux. Il n'attend pas que l'on joue pour lui. Il est vrai que l'enfant boudeur nous offre aussi l'autre visage, celui qui refuse toute joie. Et heureusement, l'enfant s'oublie vite. Mais chacun a pu connaître de grands enfants qui n'ont point cessé de bouder. Que leur raison soit forte, je le sais. Il est toujours difficile d'être heureux. C'est un combat contre beaucoup d'événements et contre beaucoup d'hommes. Il se peut que l'on y soit vaincu. Il y a sans aucun doute des événements insurmontables et des malheurs plus forts que l'apprenti stoïcien. Mais c'est le devoir le plus clair peut-être de ne point se dire vaincu avant d'avoir lutté de toutes ses forces. Et surtout, ce qui me paraît évident, c'est qu'il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. Ce que l'on n'a point assez dit, c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. On dit bien qu'il n'y a d'aimer que celui qui est heureux, mais on oublie que cette récompense est juste et méritée, car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. Aussi, nous devons reconnaissance et couronne d'athlète à ceux qui digèrent les miasmes et purifient en quelque sorte la commune vie par leur énergique exemple. Aussi, n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux? Quoi de plus difficile à surmonter que l'ennui, la tristesse ou le malheur de ceux que l'on aime? Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci, que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. J'irai même jusqu'à proposer quelques couronnes civiques pour récompenser les hommes qui auraient pris le parti d'être heureux. Car selon mon opinion, tous ces cadavres et toutes ces ruines et ces folles dépenses et ces offensives de précaution sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux et qui ne peuvent supporter ceux qui essaient de l'être. Quand j'étais enfant, j'appartenais à l'espèce des poils lus, difficiles à vaincre, difficiles à remuer, lents à s'émouvoir. Aussi, il arrivait souvent que quelquefois léger, maigre de tristesse et d'ennui, s'amusait à me tirer les cheveux, à me pincer, et avec cela se moquant, jusqu'à un coup de poing sans mesure qu'il recevait et qui terminait tout. Maintenant, quand je reconnais quelques gnomes qui annoncent les guerres et les préparent, je n'examine jamais ses raisons, étant assez instruit sur ces malfaisants génies qui ne peuvent supporter que l'on soit tranquille. Ainsi, la tranquille France, comme la tranquille Allemagne, sont à mes yeux des enfants robustes, tourmentés et mis enfin hors d'eux-mêmes par une poignée de méchants gamins. 16 mars 1923. Chapitre 93. Il faut jurer. Le pessimisme est d'humeur, l'optimiste est de volonté. Tout homme qui se laisse aller est triste. Mais c'est trop peu dire, bientôt irrité et furieux. Comme on voit que les jeux des enfants, s'ils sont sans règles, tournent à la bataille, et sans autre cause ici que cette force désordonnée qui se mord elle-même. Dans le fond, il n'y a point de bonne humeur, mais l'humeur, à parler exactement, est toujours mauvaise, et tout bonheur est de volonté et gouvernement. Dans tous les cas, le raisonnement est simple. L'humeur compose des systèmes étonnants que l'on voit grossis chez les fous. Il y a toujours de la vraisemblance et de l'éloquence dans les discours d'un malheureux qui se croit persécuté. L'éloquence optimiste est du genre calmant. Elle s'oppose seulement à la fureur bavarde. Elle modère. C'est le ton qui fait preuve, et les paroles importent moins que la chanson. Ce grondement de chien, que l'on entend toujours dans l'humeur, et ce qu'il faut changer, premièrement, car c'est un mal certain en nous et qui produit toutes sortes de maux hors de moi. C'est pourquoi la politesse est une bonne règle de politique. Ces deux mots sont parents, qui est poli et politique. L'insomnie, là-dessus, nous enseigne, et chacun connaît cet état singulier qui ferait croire que l'existence est par elle-même insupportable. Ici, il faut regarder de près. Le gouvernement de soi fait partie de l'existence. Mieux, il la compose et l'assure. D'abord par l'action. La rêverie d'un homme qui scie du bois tourne aisément à bien. Quand la meute est en quête, ce n'est pas alors que les chiens se battent. Le premier remède aux maux de pensée est donc de scier du bois. Mais la pensée bien éveillée est déjà apaisante par elle-même, en choisissant et l'écarte. Or, voici le mal de l'insomnie. C'est que l'on veut dormir, et que l'on se commande à soi-même de ne point remuer et de ne point choisir. En cette absence du gouvernement, aussitôt, les mouvements et les idées ensemble suivent un cours mécanique. Les chiens se battent. Tout mouvement est convulsif et toute idée est piquante. On doute alors du meilleur des amis. Tous les signes sont mal pris. On se voit soi-même ridicule et sot. Ces apparences sont bien fortes et ce n'est point l'heure de scier du bois. On voit très bien par là que l'optimisme veut un serment. Quelque étrange que cela paraisse d'abord, il faut jurer d'être heureux, Il faut que le fouet du maître arrête tous ces hurlements du chien. Enfin, par précaution, toute pensée triste doit être réputée trompeuse. Il le faut parce que nous faisons du malheur naturellement dès que nous ne faisons rien. L'ennui le prouve. Mais ce qui fait voir le mieux que nos idées ne sont pas en elles-mêmes piquantes et que c'est notre propre agitation qui nous irrite, c'est l'état heureux de somnolence où tout est relâché dans le corps. Cela ne dure pas. Quand le sommeil s'annonce ainsi, il n'est pas loin. L'art de dormir, qui peut ici aider la nature, consiste principalement à ne vouloir point penser à demi, ou bien s'y mettre tout, ou bien ne pas du tout s'y mettre, par l'expérience que les pensées non gouvernées sont toutes fausses. Cet énergique jugement les rabaisse tout au rang des songes et prépare ces heureux songes qui n'ont point d'épines. Au rebours, la clé des songes donne importance à tout. C'est la clé du malheur. 29 septembre 1923.